CFM, CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du Villefranchois.
Dans le mag du vendredi, on récapitule les actualités de la semaine.
Au milieu des deux, là, entre les parenthèses, entre les virgules, il y a vraiment la collection, elle est là.
Le récap du lundi.
On parle de bien-être, de nutrition, d'équilibre alimentaire, avec notamment, et pour commencer, Karine Justeau. Bonjour Karine.
Bonjour David, bonjour à tous les auditeurs.
Aujourd'hui, on va parler des produits de saison. Karine Justeau, vous êtes nutritionniste, diététicienne et enseignante au lycée Raymond Savignac. C'est quasi la fin de saison.
Hein.
Là, il y a les épreuves, tout ça. Ah bon, c'est tout fini.
Enfin, c'est fini pour les cours.
J'ai tout mis à l'envers, mais on va parler des produits de saison tout de même aujourd'hui.
Bah oui, on est essentiel. Le 22 juin, c'était la bonne occasion pour parler de la saison d'été. Vous savez que c'est un thème qui me tient à cœur, la saison. On en parlait dans les rubriques des semaines là passées. Et je crois que vraiment, ça a toute son importance. Et quand on parle saison, je me rends compte que c'est souvent les fruits et légumes souvent qui sont le plus connus. Mmh. Mais pas que. Hein. Il y a des saisons aussi pour les fromages, pour les viandes, pour les poissons. Et donc, j'avais envie de rappeler ça aujourd'hui, puisqu'on débute là, la saison de l'été. Et dire peut-être à vos auditeurs que pour toutes ces informations, parce que là, on ne va pas dresser la liste, ce ne serait pas intéressant, mais par contre, qu'on trouve maintenant de façon tout à fait facile sur Internet, et notamment au niveau du ministère de l'Alimentation, on peut trouver mois par mois ou saison par saison les listes, justement, des aliments dans la famille fromage, dans la famille viande, etc. Aujourd'hui, on a perdu toutes ces notions-là, puisque quand on va dans nos supermarchés, on peut trouver tous ces produits qui sont fabriqués tout au long de l'année. Mais cela dit, j'avais quand même envie de parler de ça aujourd'hui, parce qu'on sera toujours gagnant à respecter le mieux possible les saisons. On sera gagnant au niveau du prix, c'est pas neutre. On sera, parce qu'une barquette de fraises en janvier, hein, par exemple,
non, c'est, pas possible.
C'est hors de prix.
C'est une faute de consommation.
Ouais, c'est hors de prix en tous les cas. Mais en plus, au niveau santé, pour le coup, ça rime à rien. Je crois que je l'ai déjà dit, mais une tomate en janvier, par exemple, a 40% de vitamine C en moins que la même tomate en juillet. Donc ça sert à rien. Et en plus, c'est pas bon.
Et puis, ça perd de son charme.
En effet. Alors, c'est vrai qu'on va souvent me rétorquer que oui, l'hiver, c'est plus compliqué d'avoir des fruits et légumes. C'est vrai, ça, c'est tout à fait vrai. Il y a des saisons qui sont plus faciles que d'autres pour l'alimentation. Mais néanmoins, je crois qu'on peut essayer quand même, pour la grande partie de nos repas, de faire très attention à ça.
Mmh.
D'accord ? Alors, pour parler de ça, c'est vrai que moi, quand je fais des ateliers, quand je suis sur ma casquette intervenante en goût, j'ai un petit jeu, tout simplement, que je soumets.
Vous êtes très joueuse, Karine.
Je suis très joueuse.
Votre rendez-vous bien-être vous est présenté par le magasin Au Bio Nature et Vie, avenue de Toulouse à Villefranche-de-Rouergue.
Cocotte, une deuxième partie que je partage avec Delphine Henneke, naturopathe au magasin Au Bio. Coucou Delphine.
Coucou.
Aujourd'hui, c'est
les petits déjeuners. Le petit déjeuner, ou bien on va commencer même par l'absence de petit déjeuner.
Ah,
faut-il prendre son petit déjeuner ou pas si on n'a pas faim le matin? Le petit déjeuner, on dit oui, il faut manger comme un roi le matin, il faut absolument manger, c'est le repas le plus important de la journée, on entend ça, c'est vrai. On est bercé par ça tout le temps, le petit déjeuner, c'est important, faut prendre son petit déjeuner, les enfants ils ont pas faim, bon, on les force un peu, force-toi, sinon tu vas pas être bien. Bon, c'est pas vrai. Tout ça, c'est... C'est-à-dire que c'est difficile pour moi de poser des vérités, de dire moi j'ai raison, mais quand même, si on n'a pas faim le matin, c'est bien pour une raison. Pourquoi on se forcerait à manger ? Est-ce qu'on irait se coucher si on n'avait pas sommeil ?
Mais t'as raison, t'as souvent raison. Et aujourd'hui d'autant plus. Oui.
Donc si vous n'avez pas faim le matin, surtout ne mangez pas. Qu'est-ce qui va vous arriver ? Rien du tout. Au pire, vous aurez un peu la dalle vers 11h. Tout ce qui va vous arriver, mais vous n'allez pas vous évanouir, vous n'allez pas avoir n'importe quel trouble de ne pas sentir bien, tomber dans les pommes parce que vous avez sauté un repas. Mmh. Il faut bien se rendre compte aussi qu'il y a des millions de gens dans le monde qui ne font pas 3 repas par jour, loin de là. Et ce n'est pas pour ça qu'ils ne peuvent pas travailler, qu'ils tombent dans les pommes toutes les 3 minutes. Donc, on n'a pas faim, on ne mange pas. Et ben, ça permet aussi au corps de finir son travail de détox. Parce que c'est vrai que la nuit, les organes digestifs en profitent pour faire le grand nettoyage. Et parfois, ce travail-là, il n'est pas fini le matin. Et ben là, on va en profiter pour laisser ce repos et permettre vraiment d'éliminer. D'éliminer complètement. Par contre, si on a faim... Mais qu'est-ce qu'on va manger ?
Faut pas faire n'importe quoi là.
Faut pas faire n'importe quoi. Alors l'image, comme tu le disais, du petit déjeuner, les petites publicités à la rentrée, c'est le bon verre de jus d'orange, les céréales du petit déjeuner dans le grand bol. Ouais. Avec arrosé de lait. En général, il y a un autre produit laitier, un yaourt qui est rajouté et puis un fruit.
Tout ce qui va bien, quoi.
Tout ce qui va bien pour pas bien digérer, tout ce qui va bien pour se bourrer de sucre et de toute façon, voilà, avoir au bout d'une heure et demie à nouveau faim. Manquer d'attention, de vigilance, enfin, c'est pas un petit déjeuner du tout adapté pour les enfants.
Toutes les chroniques de Delphine sur le cfmradio.fr, rubrique bien-être au bio, nature et vie.
La vie des pays, au son de la pop et du rock en Aveyron. La vie des pays, CFM. CFM à Villefranche, 90.2, 90.2.
Ne vous inquiétez pas, ça repart.
Avec le récapitulatif du MAG de ce mardi.
Les haut-parleurs.
Petite rétrospective sur la compagnie Théâtre Mesdames A. Déjà, c'est quoi cette compagnie?
Hein? Eh bien, déjà, moi, avant de parler de la compagnie, je voulais parler du super repas, parce que ça, si on n'a pas bien mangé, même aller voir un spectacle, c'est pas toujours marrant. Alors, donc, je vais parler du repas d'un tagine qu'a fait Régis, parce que moi je suis incapable de faire ça, et c'est lui, dans le ménage, qui fait à manger depuis 50 ans, qu'on est ensemble. Mais bon, c'est vous dire, comme je suis un petit peu vieille. Bon, alors, donc, ce jour-là, je faisais le service et ça marchait du tonnerre de Dieu. Je ne sais plus comment on a fait de repas, peut-être bien 50.
Oh oui, oh. 50.
Hein?
Oui, 50.
Loulou,
oui,
Loulou, lui, tellement. Faisait les tickets. Parce que moi, compter les tickets, c'est un peu dur. Bon, bref. Alors, moi, je vais vous parler donc d'un accident de théâtre. Ça, c'était juste
deux jours après, c'était le samedi. Et là, vraiment, c'est bien bête que vous ayez raté
sur
ça.
Sur la place du Saint-Jean, c'était voilà. Bien.
Ouais, c'est là que j'ai vu que Loulou, il était bien en avance et moi, un peu en retard. Alors, il a fallu me jucher sur des espèces de tabourets où j'ai vraiment eu le dos en compote. Mais bon, heureusement, ils sont venus jouer et j'ai tout oublié, le mal de rein et le reste. Et c'était vraiment super. Alors, c'est la compagnie Mesdames A. Je ne sais pas pourquoi A, mais bon.
Je sais pas non plus.
Ils sont donc, c'est une compagnie, je leur ai demandé après discrètement, parce qu'ils venaient toujours pas, on les attendait pour boire un coup, après la fin du spectacle. Ils venaient pas, alors je suis allée les voir tranquillement, parce que moi, il fallait bien que j'aille me coucher. Et je leur ai demandé gentiment, vous êtes d'où ? On est de Toulouse. Et j'ai dit, mais vous répétez où à Toulouse ? Hein, parce qu'il faut bien répéter quelque part. Et ils m'ont dit, bah justement, c'est pas facile de répéter à Toulouse, parce que... Donc, ils ont un lieu un peu en dehors et ils chercheraient bien, finalement, hein, à sortir de Toulouse. Peut-être venir ici, hein. Tu leur as pas demandé, Loulou?
Non.
Ils viendraient pas par ici?
Non, mais je sais que deux des personnes, notamment la régisseuse, est originaire de Sévrac-le-Château. C'est un peu.
Voilà.
Si, c'est parce qu'elle est un peu aveyronnaise qu'on a eu un peu ce pont avec cette troupe.
Ça, je savais pas.
Ouais.
D'accord. Enfin, bref, c'était super bien. Ils nous ont. En fait, j'ai compris que c'était une des personnes qui a écrit elle-même tout le spectacle. C'est une sacrée histoire un peu bizarre à suivre. On rentre dedans au fur et à mesure, parce que voilà. Et après, on est pris.
Ah ben ouais, on est pris. D'autant que c'était peut-être pas très facile pour eux. Et c'était la première fois qu'ils faisaient ça en extérieur.
Ah.
Un peu des conditions de théâtre de rue.
Ouais.
Enfin, entre les voitures qui peuvent passer, les petits coups de klaxon, enfin, les trucs, ils ont eu quand même un sacré mérite. Et... moi aussi, j'ai adoré cette soirée parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde, notamment des enfants et beaucoup de gens du quartier. On était vraiment dans un truc très convivial, très familial, très sympa.
Avec en studio Charlotte Gindre. Bonjour Charlotte Gindre.
Bonjour David.
Charlotte Gindre qui est la directrice en chef du centre Lodini à La Fouillade. Directrice en chef, j'en rajoute un peu, directrice du centre, coordinatrice. En tout cas, c'est vous qui avez la gestion de cet espace repéré sur notre territoire. Alors moi, je pensais qu'on faisait que du foot à Lodini. Que des nids, rien du tout. Il y a plein d'autres choses. Et c'est un petit peu l'objet de notre causerie du jour dans cette deuxième partie du magazine d'actualité. Par contre, on commence une petite présentation. On parle du centre Lodini, peut-être. Présentation de la structure, de son organisation, de qui fait quoi.
D'accord, très bien. Alors, le centre de Lodini, c'est un centre de loisirs et de vacances. C'est un centre d'hébergement, avant tout, qui accueille à l'année. Donc, on accueille des enfants en centre aéré de 3 à 11 ans durant les vacances scolaires et des colonies de vacances durant les vacances aussi, entre 7 et 14 ans. Donc là, on est sur des thématiques sportives plutôt avec tout ce qui est donc le foot, le multisport et la pêche. Et le reste de l'année, on est ouvert pour les groupes, les associations culturelles et sportives parce qu'on a un centre avec des infrastructures ralliées directement sur le site. C'est-à-dire que vous sortez de votre hébergement et vous êtes sur les terrains de foot, donc pour les sports collectifs, sur un petit terrain de 7 contre 7 à côté. On a un gymnase couvert avec une salle d'escalade à disposition. On a des terrains de tennis en terre battue. On a la possibilité de travailler avec une base de loisirs qui est à proximité. Donc, on a un gros réseau de partenariats au niveau du territoire qui nous permet de vous faire des séjours clés en main, en fait, pour les groupes. Et on accueille aussi les classes de découverte, que ce soit pour les fins d'année ou les débuts d'année, avec des animations, parce qu'on travaille avec une association partenaire, la SCBR, où on a un pool animateur qui permet aussi de créer tous ces séjours.
Alors, vous avez nommé la SCBR, mais vous n'avez pas nommé la base de loisirs.
Ah, voilà, avec merci. Qui on travaille à Najac.
Et effectivement, à La Fouillade, il y a une super structure, je pense au mur d'escalade dans le gymnase. Vous parlez de cette installation
qui est
exceptionnelle sur notre territoire.
C'est un grand mur d'escalade, il y a un bloc et puis c'est rattaché au gymnase, donc il y a vraiment de l'espace et on peut faire de l'escalade de son côté et les autres peuvent par exemple faire du badminton juste à côté.
Ah, excellent sport. Le centre de Lodini, au cœur du village de La Fouillade, c'est ça ?
C'est ça, en plein cœur du village, juste derrière l'église en fait, et on travaille... justement avec les commerçants du coin, donc quand vous êtes sur place vous pouvez bénéficier des cafés, des boulangeries, il y a la poste, enfin il y a toutes les commodités juste à côté.
Coq à l'âne.
On est déjà mercredi dans le récapitulatif de la semaine.
Ne jetons plus, réemployons et recyclons. Nom de nom.
Cette semaine à la recyclerie, je vous présente un buffet de cuisine qui date du temps de nos grands-mères, des années 50-60 je pense. On a commencé à le céruser pour que les gens le finissent en fait. Si vous avez le temps et l'envie, C'est un meuble qui peut vous plaire parce que vous pourrez le finir de le relooker à votre idée pour 60 euros. C'est une jolie pièce que je vous invite à venir découvrir à la recyclerie. Belle journée tout le monde, à bientôt.
Guy Pezet, co-président de l'association Rencontre à la campagne, invité de cette édition du magazine d'actualité pour nous parler du cinéma aux Rencontres à la campagne et de ce pré-festival, de cette mise en bouche. Ça, c'est un petit peu nouveau dans l'organisation de l'association. 18e édition du festival Rencontre à la campagne avec des premières projections. Le festival est bien à la rencontre.
La billetterie du festival, à des prix donc réduits pour le week-end, des séances à 4 euros. Et puis on peut acheter déjà des forfaits, donc ainsi de suite, ou des carnets de 6 séances, donc à des prix vraiment réduits. C'est une manière de fêter le cinéma.
C'est quoi l'idée de ce cinéma? Il y a la fête du cinéma. L'idée de ce pré-festival?
C'est justement du teasing.
C'est ce qu'on dit comme ça.
Oui, je sais pas. C'est une manière de communiquer quoi aussi autour du festival déjà. Une sorte de teasing si vous voulez. Et donc de présenter aussi le programme et de proposer une programmation qui va aussi un petit peu dans le même sens. Alors en particulier, il y avait une part qui sera faite au cinéma italien en septembre, et donc il y a un beau film là, Les Merveilles, d'Alice Rochefacher, qui a eu l'an dernier le Grand Prix au Festival de Cannes, qui est un film remarquable sur l'été dans un village de Hombrie, et sur un village dans lequel on va tourner une émission télévisée, Village des Merveilles, ce qui va susciter des petites transformations dans les règles assez strictes de vie d'une famille que l'on suit durant toute 7h50 de bonheur. Et donc en même temps, il y a à nouveau une leçon de cinéma, ce sera donc la troisième. Il y en aura une quatrième au festival sur Tarkovsky. Là, c'est sur l'adaptation du littéraire au cinéma, et c'est avec La lettre d'une inconnue d'Ofuls, qui est inspirée du roman de Stephen Zweig, enfin du récit de Stephen Zweig. Et puis ça se termine avec L'ombre des femmes, qui est une sortie. Vous savez qu'on aime bien au festival aussi avoir des sorties nationales ou des avant-premières. L'ombre des femmes est sortie il y a quelques semaines de Philippe Garrel. On l'a gardé pour là. Garrel, c'est le cinéma que chante Yves Simon si magnifiquement dans Le Pays des Merveilles de Juliette Berthaud, qui a travaillé d'ailleurs avec Garrel et qui travaillait avec Godard, comme à laquelle fait allusion Yves Simon. Et donc Garrel, il est toujours là. Il y a son fils aussi qui est devenu célèbre, Louis. Mais il y a son père qui l'était. Mais c'est une grande famille de cinéma, et d'après tout le monde, c'est un grand film sur le couple avec une actrice qu'il fait se révéler complètement, qui est Clotilde Courau, qu'on a vu que dans des petits films français, des comédies, puis qui est devenue une princesse, je crois, qui a épousé le prince de Savoie ou quelque chose comme ça, et qui là, paraît-il, est tout à fait exceptionnelle. Mais Garrel sait très très bien diriger les acteurs et a un sens du cinéma, de la poésie au cinéma aussi, qui manque un petit peu peut-être dans l'horizon du cinéma français.
La pré-18e édition du festival Rencontre à la campagne, c'est ce week-end, samedi et dimanche.
Il y aura restauration possible sur place. Enfin, c'est déjà un peu se mettre en jambes, quoi.
La vie des pays au son de la pop et du rock en Aveyron. La vie des pays, CFM.
It's just you were coming at me, and you're such an asshole.
Davenport, I want you.
Yeah, Davenport.
Yeah,
Davenport.
CFM à Villefranche, 90.2. 90.2.
On ne finit pas les phrases, hein.
Jeudi, et je disais hier aussi, dans le mag, on entendait ceci.
Le Villefranchois, l'info du Quercy et du Rouergue.
Du dossier.
La gendarmerie.
Eh oui, David, le chantier de la gendarmerie est à l'arrêt, mais on nous annonce de semaine en semaine la reprise du chantier. Donc, nous sommes allés à la rencontre du promoteur, Patrick Holster, qui a donc repris ce chantier qui était à l'arrêt depuis 2008. Patrick Holster n'a pour l'instant pas accepté de s'étendre sur ce dossier, expliquant que il a des impératifs de discrétion lié à la signature d'un contrat avec la gendarmerie. Mais enfin, d'après nos sources, les choses sont bien engagées. Des entreprises se sont rendues sur le site pour affiner des devis qu'ils avaient présentés à l'investisseur. Donc des entreprises sont sur le point d'être retenues pour ce chantier qui devrait démarrer dans le courant août ou à la rentrée. C'est une date impérative parce qu'on sait que le promoteur est tenu par le temps afin de livrer cette caserne aux gendarmes qui souhaitent l'intégrer le plus rapidement possible. Nous revenons dans ce dossier aussi sur la chronologie de l'affaire, hein, une affaire qui est c'est kafkaïen, quoi. Je veux dire, c'est ubu-rois. On est dans des sociétés qui font faillite, qui avaient construit sur des terrains qui ne leur appartenaient pas ou qui étaient dont la propriété était contestée, en faisant des actes notariés qui se trouvaient être caducs, qui en tout cas n'auraient pas dû être passés à l'État. C'est un catalogue de ce qui se fait de plus complexe en matière juridique. Hein. Ça fera certainement un jour ou l'autre l'objet d'une étude à l'école, à la faculté de droit. Parce que là, vraiment, c'est on a un empilement incroyable de procédures qui s'enchevêtrent. Et donc, on va peut-être arriver
à voir
le bout. Voilà,
ça, c'est pour la fin de semaine,
ce qu'on dit, la fin de la semaine ou dans 15 jours ou 3 semaines. Bon, mais il faut quand même garder un certain optimisme. Et de toute évidence, le sérieux du promoteur, lui, n'est pas remis en question. Il se heurte à des questions administratives très complexe compte tenu du dossier.
Jérôme Nigris, bonjour Jérôme.
Bonjour.
Secrétaire de l'Union locale Force ouvrière à Villefranche-de-Rouergue, accompagné d'Elisabeth Peuèche. Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Alors j'ai pas encore bien compris, Elisabeth, quelle était votre fonction précise à l'Union Force ouvrière. Mais alors vous êtes plus sur le Cantal, j'ai cru comprendre. Et entendre parler d'assistante maternelle, c'est votre domaine, et ce soir est programmé au local de l'Union locale de Villefranche-de-Rouergue une intervention autour des assistantes maternelles. Je crois savoir que vous avez travaillé et œuvré. Il existe une convention collective pour les assistantes maternelles. Alors ça, je le découvre. Je l'ai découvert avec le courrier que m'a envoyé Jérôme la semaine dernière. Vous allez intervenir. C'est quoi le thème de cette intervention? C'est de l'information, hein, c'est pas.
C'est de l'information, c'est ça. Bon, mais bonjour. Donc c'est de l'information auprès des assistantes maternelles, donc sur la convention collective, sur leurs droits et surtout sur les méthodologies de calcul, puisqu'elles ont un régime très particulier au niveau de leur salaire, de leur rémunération, du calcul des congés payés, en passant par le calcul de l'impôt sur le revenu, puisqu'elles ont un régime spécifique. Et effectivement, donc Force ouvrière est signataire de la convention collective depuis 2005, puisque la convention collective a vu le jour en janvier 2005.
Ce qui est très récent, hein, quand on regarde des assistantes. Enfin, moi, j'avais une nourrice quand j'étais petit, qui tombait peut-être pas sous le coup de la convention collective à l'époque, enfin je veux pas le savoir, mais ça s'est structuré, hein. C'est un secteur d'activité qui s'est structuré.
C'est un secteur qui s'est structuré, à la base donc en 92 il y a eu un statut qui a été créé pour les assistantes maternelles avec des agréments, puisque avant 92 elles n'étaient pas agréées, les assistantes maternelles qui gardaient des enfants que vous appeliez entre guillemets nourrices, donc n'avaient pas d'agrément. Donc après 92 il y a eu des agréments qui ont été donnés avec un statut et elles étaient soumises au code du travail. Et en 2005, des partenaires sociaux se sont mis autour de la table pour en fait établir une convention collective et donner un cadre juridique à cette profession. Le seul problème que l'on pourrait tirer de cette convention collective, elle a le mérite d'exister, mais on n'est plus affilié au Code du travail, puisque certains textes du Code du travail ont été listés dans le Code de l'action sociale et des familles. Et de ce fait, on appartient au Code de l'action sociale et des familles. Donc on a un régime vraiment très particulier. Le parent employeur est démuni aussi lorsqu'il doit faire appel à une assistante maternelle. Alors je tiens bien au terme assistante maternelle, puisque ce sont des professionnels de la petite enfance. Donc les assistantes maternelles font office d'information vis-à-vis de leur employeur.
Oh, c'est la fin.
Pas de fin, pas de commencement. Ni commencement ni fin, et c'est parce que je voulais pas qu'il y ait de fin.
CFM, le MAG, tous les jours, 12h30, la vie du Villefranchois.